Près de 40 ans après le film initial, le réalisateur américain Ridley Scott a donc repris le contrôle de sa bête immonde avec Alien Covenant, un film qui éclaire les débuts de la saga avant les événements initiaux du Nostromo. En 40 ans, Alien est devenu plus qu'une simple série de films plus ou moins réussis. C'est une mythologie de science-fiction complète, un univers monde qui a fracturé les codes de la SF pour proposer un objet hybride, complexe, mutant, obscène à l'image de ses créatures. Mais qu'est-ce qu'Alien a donc changé à l'imaginaire de la science-fiction et comment s'est construite cette mythologie puissante ? Alien, la peur en replay, c'est notre programme un tantinet baveux pour ce vendredi fiction. Et dans l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour plonger aux racines du mythe, ils sont là prêts à retrousser leur babine dégoulinante. Simon Rio, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Rédacteur en chef du site Écran Large, nous avons le plaisir également d'accueillir Norbert Merjanian, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Auteur des Tours de Samarante et de Trace Altitude Zero chez De Noël, les Tours de Samarante également en folio SF. Évidemment, vous pouvez suivre comme d'habitude cette émission sur le fil Twitter de l'émission @laméthodeFC. Mais avant de parler donc de cette bête baveuse, il est là de plonger donc dans les entrailles même de la bête. Il est à l'actualité de la science que la reine mène est au xénomorphe. C'est Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Pour le Journal des Sciences.
Le Journal des Sciences.
Qu'est-ce donc que ce X-37, ce véhicule orbital automatique et secret de l'armée américaine qui vient de revenir sur Terre après une mission de quasiment 2 ans? On le soupçonne, Xavier, d'être une arme spatiale.
Oui, ce qu'on sait, c'est qu'il fait près de 9 mètres de long, la moitié d'envergure. Il a l'aspect d'une petite navette spatiale avec ses ailes et son nez arrondi. C'est le X-37B, B parce que construit par Boeing, au début opéré par la NASA, aujourd'hui par l'US Air Force. Effectivement, il a atterri à Cap Canaveral le week-end dernier. C'est le plus long séjour, 2 ans dans l'espace, des 4 séjours déjà effectués. Alors le peu d'informations techniques et l'usage d'ailleurs du X-37 intrigue. On sait juste qu'il doit être lancé par une fusée Atlas, qu'il est capable de suivre une orbite basse à 200 km et de revenir se poser de manière automatique. Son énergie, elle, provient de panneaux solaires et il posséderait aussi une petite soute. Quant à sa fonction, jusqu'ici l'US Air Force n'a reconnu qu'un usage comme plateforme pour tester un moteur ionique ou alors une centaine de matériaux dans le vide, mais certains le soupçonnent d'être un satellite espion, voire pire, une arme spatiale cachée. Eh bien, pas le physicien et spécialiste des armements automatisés, Marc Goubroud, il est professeur à l'université de Caroline du Nord.
Peut-être que les militaires utilisent le X-37 pour capturer des débris spatiaux. Peut-être qu'ils testent des matériaux en environnement spatial, même si, puisqu'il est en orbite basse, les radiations sont moins importantes que celles reçues par la majorité des satellites en orbite haute. Mais en ce qui concerne la possibilité qu'il soit une arme, ça n'aurait pas beaucoup de sens. D'abord, ce serait des coûts énormes pour une charge embarquée très petite. Ensuite, la fiabilité du système serait faible parce qu'il serait difficile de garantir qu'il soit 100% opérationnel avant un lancement. Et puis l'idée selon laquelle vous pouvez envoyer un projectile très rapidement de l'espace sur la Terre est fausse aussi. Il faudrait le désorbiter avec un moteur fusée, et quelle que soit la configuration, c'est vraiment plus simple de lancer un missile directement du sol ou d'un sous-marin, en tout cas plus près de la cible, pour limiter le temps de vol. Quant à ceux qui s'imaginent qu'on pourrait l'utiliser pour une guerre spatiale, par exemple en traquant et en récupérant d'autres satellites, il n'est pas assez gros pour pouvoir faire ça. Et si c'est pour une utilisation spatiale exclusive, les ailes, le train d'atterrissage et les tuiles de protection thermique sont une masse inutile, alors qu'il n'a même pas la place pour le carburant qui lui permettrait d'avoir une bonne capacité de manœuvre dans l'espace, il reste en orbite basse. Alors certains disent qu'il pourrait lancer un autre satellite plus petit sur des orbites plus éloignées. Là, oui, c'est possible, mais je ne vois aucune raison de penser que c'est le cas.
Voilà, Solong pour l'arme spatiale. En bref, Xavier, les dernières nouvelles de la sonde Juno autour de Jupiter.
Eh oui, le sujet a été étudié à Vienne il y a 2 semaines. La sonde Juno, donc en orbite autour de Jupiter depuis 300 jours, a livré des données qui intriguent fortement les scientifiques de la NASA. Parmi elles, un système météorologique à base d'ammoniac, un noyau irrégulier de diamètre de 70 000 km, un champ magnétique variable également, et puis aussi des images d'aurores jupitériennes qui sont nées dans le méthane. En attendant, vous pouvez voir celle de la surface gazeuse prise par la JunoCam, très jolie comme des tableaux impressionnistes.
Voilà une image qu'on va vous mettre tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. On ne sait toujours pas si les États-Unis vont rester ou non dans l'accord de Paris sur le climat.
Et oui, les 8 pays du Conseil de l'Arctique se réunissaient à Fairbanks en Alaska. Ils ont adopté une déclaration finalement signée par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Surprise, car la déclaration inclut bien un volet sur l'accord climatique et la lutte contre le réchauffement, mais pas plus clair cette déclaration. Puisque le texte note l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, il promeut la lutte contre les gaz à effet de serre et les polluants, mais il ne mentionne pas la responsabilité humaine dans le réchauffement. Le président Trump lui doit annoncer sa position avant le G7 fin avril en Sicile.
Voilà, et puis on vient d'apprendre que l'Arctique est tout aussi contaminé que les autres océans par la pollution plastique.
Et là, ce sont jusqu'à 100 000 fragments de plastique de la taille d'un grain de riz par kilomètre carré, des centaines de tonnes, plus que la Méditerranée et moins quand même que les grandes gires, les grandes concentration de courant océanique. La raison ici dans l'Arctique, c'est la circulation thermohaline, le fait que les courants de l'Atlantique qui se refroidissent plongent sous les eaux de l'Arctique, qui déposent ensuite les déchets moins denses dans les zones de plongée. Donc, les scientifiques du CNRS et de Tara Océan qui ont effectué l'analyse a trouvé par où ces déchets moins nombreux qu'ils ne devaient être sont évacués. Ils vont le chercher voie animale ou voie maritime.
Deuxième sujet de ce journal des sciences, les conséquences du Brexit sur l'activité scientifique. Les milieux britanniques et européens se mobilisaient à Londres cette semaine, Xavier.
Oui, une réunion lundi dernier organisée par l'association Euroscience et la Royal Institution pour la Science. Une centaine de scientifiques britanniques et européens pour une série de tables rondes sur l'impact du Brexit sur la science. C'était le titre pour évaluer donc ses conséquences sur la mobilité et l'activité des chercheurs en Grande-Bretagne et en Europe, puisque quand même 15% des financements scientifiques européens vont à la Grande-Bretagne. Alors même si le Brexit n'arrivera pas, on le sait bien techniquement, avant 2019, les inquiétudes sur la place de la science dans l'accord à venir sont assez vives. Certains chercheurs d'ailleurs hésitent déjà à se déplacer. Écoutez ce qu'a à dire la bioinformaticienne à Cambridge, Janet Thornton. Elle est membre aussi du conseil scientifique de l'European Research Conservation Union.
Bien que les financements européens ne représentent pas grand-chose pour la recherche et développement en Grande-Bretagne, autour de 3 à 5%, il faut bien voir qu'en ce qui concerne la recherche fondamentale ou la recherche exploratoire, c'est bien plus important, notamment pour les universités. Si je prends le cas de l'université de Cambridge où je travaille, ce sont 20% des fonds qui sont versés par l'Union européenne. Dans mon laboratoire, l'Institut de bioinformatique européen, nous sommes un peu protégés parce que nous avons une structure internationale, mais ça n'empêche pas que nous avons déjà constaté une baisse de notre activité hors de Grande-Bretagne, pour l'instant entre 5 et 7%. Et ce qui est sûr aussi, c'est que si nous ne faisons pas partie du prochain et 9e programme cadre de l'Union européenne, il y aura des conséquences importantes pour l'ensemble des sciences ici. Et nous, les scientifiques en Grande-Bretagne, nous sommes plutôt en colère, parce que je ne pense pas que la plupart des gens qui ont voté pour le Brexit ont aussi voté pour nous couper scientifiquement de l'Europe. Cela arrive presque comme une conséquence non désirée.
Voilà, et un rapport des institutions scientifiques britanniques va être publié normalement à la fin du mois pour évaluer précisément l'impact financier du Brexit.
Oui, tout ce qu'on sait déjà, c'est que l'archéologie devrait être fortement touchée, elle qui est financée à près de 40% par les fonds européens. Pour la recherche et développement, le gouvernement britannique a promis quand même d'augmenter ces 3 prochaines années le budget, 2 milliards d'euros par an, mais il faudra attendre les élections générales, bien sûr, le 8 juin. En tout cas, l'impact sera fort, puisque lors du dernier projet programme cadre européen, la Grande-Bretagne avait reçu près de 9 milliards d'euros pour la recherche et développement. Et puis, selon des cabinets indépendants, en 2016, elle était la première bénéficiaire du programme Horizon 2020 et elle participait à 38% des projets. Les labos britanniques perdraient donc 1 milliard d'euros, estiment ces agences. Le directeur d'ailleurs de l'Agence nationale de recherche française, Michael Matlos, était à Londres lundi.
Pour nous, c'est effectivement une situation préoccupante, que ce soit au niveau de mon agence. Et je voulais signaler ici à ce titre que dans le cadre des financements multilatéraux auxquels nous sommes associés en tant qu'Agence nationale de la recherche française, les laboratoires britanniques sont des troisièmes en termes de collaboration dans ces financements au sein de l'espace européen de la recherche. Donc pour nous, ce sont des partenaires essentiels, les Britanniques, dans les universités, dans les organismes de recherche. Nous ne voudrions surtout pas que cette situation agisse négativement sur la qualité et l'importance des collaborations. Nous veillons beaucoup, et en particulier au niveau de Science Europe, à ce que la question de la collaboration scientifique ait une place importante dans les négociations futures qui s'ouvrent sur le Brexit. À ce titre, nous serons attentifs aussi à des possibilités éventuelles pour que la Grande-Bretagne, à l'avenir, puisse avoir un statut de pays associé au programme cadre de recherche européen, comme c'est le cas aujourd'hui pour la Suisse, la Norvège, Israël, Islande et d'autres.
En bref, au Libéria, une piste sérieuse pour ces décès mystérieux qui avaient relancé la crainte d'une épidémie de type Ebola.
Oui, en fait, c'est une méningite rapide, a dit le ministère de la Santé du Libéria. C'était des résultats attendus des tests du Center for Disease Control d'Atlanta. Sept échantillons se sont révélés positifs. Plus précisément, ce sont des méningocoques C, une bactérie présente dans la gorge et transmissible par la salive. La plupart d'ailleurs des 12 personnes décédées étaient à une même cérémonie, je le rappelle. Pas d'empoisonnement donc, mais en tout cas, pas de risque d'épidémie.
En revanche, la nouvelle est tombée il y a peu de temps, tout à l'heure, en début d'après-midi, le retour d'Ebola en République démocratique du Congo.
Oui, là c'est l'OMS qui l'annonce. Cette épidémie aurait fait 3 morts déjà depuis le 22 avril dans le nord-est de la RDC. La précédente, je le rappelle, avait fait 49 morts. Elle était partie du nord-ouest et elle s'est terminée il y a 2 ans et demi.
Les archives d'Alexander Grothendieck sont désormais, une partie d'entre elles en tout cas, disponibles sur Internet.
Ouais, ce sont 18 000 pages d'archives quand même, mises en ligne par l'Université de Montpellier, écrites entre 1949 et 1991 par cette médaille Fields, Alexandre Grothendieck, qui a failli révolutionner les mathématiques et qui est mort isolé, parfois délirant. 18 000 sur 28 000 au total. On y voit de la géométrie algébrique, bien sûr, des notes manuscrites emplies d'équations ou tapées à la machine, mais aussi une médaille reçue dans les années 70 qui lui servait, dit la note, à casser des noisettes. Par contre, pas de méditation sur le diable ou de réflexion sur la Shoah dont parlaient ceux qui avaient déjà vu le fond physique.
Voilà, et pour plus d'informations, je vous renvoie sur le site de franceculture.fr où vous trouverez un dossier complet sur ces archives de Grothendieck et des liens vers l'émission que nous y avions consacrée ici même autour de la table de la méthode scientifique. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, eh bien, l'odorat humain est finalement pas si loin de celui du chien, Xavier.
Oui, c'est une découverte qui va entailler, on pourrait dire, 150 ans d'histoire de neuropsychologie, peut-être de préjugés concernant le statut du bulbe olfactif chez l'humain, puisque depuis les travaux de neuroanatomie de Paul Broca dans les années 1860, on pensait que puisque chez l'homme, cette partie du cerveau était la plus petite de tous les animaux, elle faisait 0,01% contre par exemple 0,3% chez le chien, et bien elle avait un faible rôle de l'odorat, et c'est ça qui marquait la différence et la supériorité humaine. On recensait jusqu'à ici à environ 10 000 le nombre d'odeurs que pouvait capter l'humain. Il n'en est rien selon cette étude de l'université du New Jersey qui compile en fait une étude de 2015 qui affirme que l'odorat humain pourra en capter un trillion, donc un milliard de milliards, et une expérience faite avec des humains, les yeux bandés et les oreilles bouchées, qui se sont révélés capables de suivre la piste d'une odeur. Ils n'ont pas été mis en compétition avec des chiens qui apparemment quand même reconnaissent aussi bien l'urine que les humains le vin.
Eh bien, on est ravis de l'apprendre. Merci beaucoup, Xavier. Pas tout de suite encore d'humains renifleurs dans les aéroports. Soyez rassurés, on vous retrouve la semaine prochaine pour le Journal des Sciences. Get away from her, you bitch! Éloigne-toi d'elle, femme de mauvaise vie, pourrait-on traduire dans un langage châtié dans l'une des scènes iconiques de la saga Alien, le combat final entre Sigourney Weaver alias Helen Ripley, héroïne des quatre premiers films, et la reine-mère Alien, c'est dans le film de James Cameron en 1986, puisque nous avons donc parlé au cours de cette heure de la mythologie Alien. À l'occasion de la sortie du nouvel opus Alien Covenant, signé Ridley Scott, le réalisateur du tout premier long métrage de 1979. Nous en parlons donc avec Norbert Merjanian, auteur des Tours de Samarante et de Trace Altitude Zero chez De Noël, et Simon Rio, rédacteur en chef du site Écran Large. Alors pour commencer, puisqu'on parle donc d'une mythologie et d'un ensemble de films, les quatre premiers, les deux suivants, plus d'autres films, des spin-offs Alien versus Predator qu'on peut à juste titre oublier. Néanmoins, dans cette mythologie, j'aimerais vous demander à l'un et à l'autre quel est l'élément de cette saga. Ça peut être une scène, un élément narratif, un personnage, un thème, bref, ce qui vous a, vous, le plus marqué individuellement, Simon Rio.
Oh, alors, je vais pas faire dans l'original, Nicolas. Moi, ce serait tout simplement, alors que l'équipage du Nostromo explore pour la toute première fois la surface de la planète LV-426.
Dans le premier Alien, donc.
Dans le tout premier Alien, dans le huitième passager. Au loin, cette superstructure qui se dessine, qui est le vaisseau, donc, dont nous n'entendrons parler que 35 ans plus tard avec Prometheus. ce très étrange vaisseau. À la forme qui est à la fois oblongue, phallique, arrondie, qui est très dur à analyser, qui a été inventée, on reviendra sûrement là-dessus, par H.R. Giger. Tout simplement, cette scène, si vous voulez, c'est le moment où Alien, alors malgré des qualités formelles déjà évidentes, bascule dans l'inconnu et nous permet, nous, d'entrevoir quelque chose d'assez vertigineux.
Non, Bernard Chagnon.
Oui, moi, c'est clairement le personnage de Ripley qui m'a toujours paru être un contrepoint extraordinaire à Alien. Mais peut-être comme j'ai vu Alien, huitième passager assez jeune, le personnage, enfin, une caractéristique, c'est le chat. Moi, c'est le chat qui
m'a. Jonesy.
Voilà. C'est-à-dire le fait que cet animal qui est hypersensoriel, qui lui aussi est un prédateur, arrive au final à échapper au super prédateur. Voilà, ça m'a toujours, moi, étonné, amusé, fasciné.
Puisque c'est l'un des deux survivants du premier Alien, on dit souvent qu'il n'y a que Ripley qui s'en sort, c'est pas vrai, il y a Ripley et le chat. Alors on va faire un peu de remise en contexte. Le premier Alien que vous mentionnez, que vous citez tous les deux, celui de Ridley Scott, sort donc en 1979, c'est le deuxième film de Ridley Scott, qui est un réalisateur quasiment inconnu. Le casting lui-même est quasiment inconnu. Dans quel contexte, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Que produit la science-fiction, d'abord au cinéma, et puis on parlera un peu de littérature pour comprendre ce que Alien amène comme bouleversement dans cet univers, Simon Rio.
Alors, il faut pas oublier qu'on est donc en 1979, deux ans après Star Wars, et que Star Wars a déjà très largement, on va dire, changé le paradigme et le regard aussi bien de la presse que du grand public sur la science-fiction, et même s'il est à l'époque un peu tôt pour le dire, mais il va être à l'origine de toute la naissance d'une forme de pop culture, de ce qu'on appellera plus tard la culture geek. Mais donc voilà, Alien arrive après ça, mais néanmoins, on peut dire, et c'est là où peut-être il faut qu'on regarde de manière très très concrète le décor d'Alien, mais aussi sa créature, le xénomorphe, Alien va profondément changer cet univers qu'on pourrait qualifier de série B de science-fiction ou de série B d'horreur, qui jusque-là est un genre dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas considéré comme noble, et d'ailleurs qui n'a pas fait forcément grand-chose pour l'être. Mais voilà, c'est peut-être ces deux choses-là. Alien va continuer, sinon amplifier, cette transformation induite par Star Wars dans la culture populaire, j'entends, parce qu'on peut aussi parler de 2001, mais voilà, Alien se situe dans cet espace très particulier.
10 ans après 2001, 69 de 2001. Norbert Merjanian.
Oui, mais le contexte un peu particulier aussi, c'est le projet de Jodorowsky et Giger, dont on va sûrement parler évidemment, et qui a inspiré toute l'esthétique d'Alien, et cette esthétique, on la retrouve dans toute la saga.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, Alien est le résultat d'un échec, qui est exactement l'échec de ce projet-là.
Absolument.
Star Wars est sorti en 77, un projet,
l'heure est au Space Opera, et Alejandro Jodorowsky se retrouve tout simplement sur une adaptation de Dune. On va pas évidemment rentrer dans tous les détails de cette adaptation qui n'a jamais eu lieu.
Il y a un excellent documentaire qui est sorti à ce propos.
Absolument, ouais. Jodorowsky's Dune, qu'on recommande à tout le monde parce que c'est vraiment une œuvre exceptionnelle. Et donc, voilà, ce film va partir en pré-production. Il va y avoir énormément de travaux de design, de fabrication de décors qui vont être lancés. De vaisseaux, enfin voilà, c'est un énorme boulot sur lequel bossent beaucoup d'auteurs qui seront des auteurs ou des créateurs majeurs de science-fiction, de Mobius à Giger, et ça ne va pas se faire. Faute de financement, ça va être terrible. Et pour le producteur Dan O'Bannon, c'est vraiment, c'est l'échec d'une vie, quoi. C'est un truc, c'est tragique au dernier degré, mais pour autant, il va avoir envie, sinon besoin, de, on va dire, recycler et ressortir des éléments qui ont été créés pour ce Dune dans Alien. Déjà, cette idée d'une créature exogène qui va venir aller attaquer ces cosmonautes, c'est quelque chose, même si à l'époque, il l'envisage plutôt d'un point de vue comique, mais qui est déjà en gestation dans Dune. La planète LV-426, bah, c'est quand même plus ou moins grosso modo la planète des Harkonnen telle qu'elle était envisagée au moment de Dune. Et donc, tout simplement, en retraite en France, tous ces éléments vont s'enchaîner. Ridley Scott va venir le visiter. Ils vont, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est Dionnet ou Druyer, mais ils vont se retrouver en contact avec les travaux de Giger, et tout ça va commencer à prendre forme à ce moment-là.
Oui, quand on connaît les originaux de Giger, on retrouve énormément de la plastique de l'alien lui-même.
Giger qui était dans le projet de Jodorowsky.
Absolument, hein. Absolument. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'au fond, il y a un peu de la culture française, la création de SF française de l'époque, même beaucoup qui se retrouvent dans Alien. On pourrait presque faire une filiation.
C'est-à-dire, par exemple,
tout le mot, ça a été cité, Moebius, Giger.
Giger étant un artiste suisse,
oui, mais francophone, on va dire. J'élargis.
Giger, d'ailleurs, qui nous a quitté il y a 3 ans, jour pour jour, aujourd'hui. J'aimerais qu'on redise tout de même un peu un mot du contexte, parce que comme vous l'avez dit, Simon Rio, c'est vrai que Star Wars a commencé à changer un peu le paradigme de l'espace, mais jusqu'à présent, l'espace est la science-fiction, en tout cas au cinéma, même si on voit que ça a commencé à changer dans la littérature, est un espace extrêmement positiviste, hérité du space opéra, de la découverte de nouveaux mondes, de la place de l'homme, ou alors les extraterrestres sont des civilisations qui peuvent éventuellement être hostiles, mais malgré tout, on est dans une perception très colonialiste de l'espace.
Oui, mais parce qu'on est dans un monde qui est encore très normé. Je vais mettre Star Wars à part parce que Star Wars se place volontairement en disant il y a longtemps, très longtemps, dans le domaine du conte, et donc du coup le rapport à la planète Terre n'a pas lieu d'être. En revanche, dans le monde d'Alien, la planète Terre existe, on est dans un futur qui est situé par rapport à notre époque, par rapport à notre perception, et on est, entre guillemets, dans le monde réel. Or, ce que, à mon sens, la première rupture d'Alien, c'est, jusqu'à Alien 4, de ne pas faire exister la Terre. La Terre n'a pas droit de mention, et on est dans un espace qui est à la fois un espace en apparence nomenclaturé, connu, les planètes ont des noms de code, personne n'est surpris en voyant, tiens, voici LV-426.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans le 2, elle revient dans une station spatiale orbitale autour de la Terre.
Oui. Mais encore une fois, qui n'est pas la Terre, et on ne verra jamais d'image de la Terre. Et pour moi, c'est une des sources d'angoisse première dans Alien, c'est que cet espace qu'on est censé avoir colonisé, qu'on est censé avoir domestiqué, va tout d'un coup faire jaillir quelque chose qui est inconcevable, impensable, et qui va à la fois, souligner les fractures sociologiques et les fractures de classe qui existent au sein de ce vaisseau qui nous est donné comme très cohérent au début. Tout le monde travaille pour la même société, tout le monde a l'air plus ou moins de s'entendre, et la présence de l'alien va tout d'un coup faire surgir ces ruptures. Parce qu'il y a un capitaine qui est un capitaine. Il y a des techniciens qu'on met un peu de côté, qu'on regarde de manière un peu condescendante, et ainsi de suite. Toutes ces failles, elles vont être surmultipliées et vont également alimenter une angoisse. Et voilà.
Norbert Margien.
Oui, alors moi, l'absence de la Terre, elle me paraît effectivement très caractéristique, mais ça renvoie peut-être à la peur, à la gêne fondamentale que crée Alien, qui est celle du super prédateur. Ça renvoie aussi à ce qu'on est en tant qu'espèce. Moi, c'est un truc que je pense qu'Alien révèle de façon très forte. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui, et on l'imagine évidemment dans un futur, le futur de la saga, le super prédateur, voire l'hyper prédateur de la nature sur Terre. Dans Alien, on se retrouve confronté face à un super prédateur qui en proximité est bien plus puissant, mais ça fait naître, alors que lui est dans une sérénité, il a la certitude absolue d'être le super prédateur, nous on revient à ce que nous sommes en tant qu'espèce, c'est-à-dire en fait une espèce moyenne sur la chaîne alimentaire et qui en quelques dizaines de milliers d'années est devenue l'hyper prédateur, mais qui garde toutes les inquiétudes, toutes les peurs, toutes les angoisses d'une espèce qui reste aussi potentiellement une proie.
Et puis la rupture, c'est que on n'est plus face à une civilisation extraterrestre, on n'est plus face à une forme de miroir de notre civilisation humaine, on est effectivement, comme vous le dites, face à un monstre. C'est à nouveau le retour de la peur du monstre.
Face à une créature biologique, voilà. Et donc qui nous resitue, nous, dans notre biologie d'espèce.
Simon, alors, qui nous resitue dans notre biologie d'espèce, mais qui l'interroge, parce qu'on peut très facilement, effectivement, analyser l'alien et son apparence, comme comme un espèce d'énorme symbole phallique qui se déplacerait pour nous attaquer. Ça n'est évidemment pas totalement faux, hein. Il suffit de voir tout simplement l'apparence, cette gigantesque tête et ce qu'elle peut symboliser.
On va en parler de ça.
Mais voilà, l'alien nous interroge aussi parce qu'il joue en permanence sur le genre. C'est un super prédateur, mais comme vous le dites très bien, c'est un super prédateur tranquille. L'alien n'a jamais besoin de courir, n'a jamais besoin de rugir. L'alien est d'un calme absolument impénétrable. C'est une mer d'huile glacée. Et tout ça va interroger justement notre rapport à la finitude, à la biologie et à toutes les structures en fait qui normalement nous sécurisent.
Il y a quelque chose qui change aussi radicalement dans la perception de l'espace. Même si Star Wars avait commencé entre guillemets à désaseptiser un peu l'espace, là on est face à non plus un capitaine de vaisseau parti coloniser l'espace, on est face à un prolétariat. Ce sont des ouvriers dans un vaisseau qui est un vaisseau usine et l'espace est d'un seul coup sale, rouillé, coulant. Et ça change radicalement. Là, il y a un vrai passage vers un univers qui n'a pas été ou très très peu exploré jusqu'à présent par la science-fiction, en tout cas au cinéma.
Mais oui, ça change radicalement et ça change tout simplement la dynamique et la philosophie des personnages. C'est-à-dire que vous évoquiez tout à l'heure une espèce d'idée de science-fiction colonialiste, c'est assez vrai. C'est-à-dire que soudain, cette alliance qui va de soi des humains contre l'élément extérieur, contre l'agresseur, ne va pas de soi. Parce que tout le monde n'est pas d'accord pour aller au turbin, tout le monde n'est pas d'accord pour aller se battre contre l'alien dans les coursives. Et tout d'un coup, comme on l'évoquait tout à l'heure, cette entité, cette créature biomécanique va absolument tout dérégler à bord et dérégler tous les rapports hiérarchiques et sociaux jusqu'à, et c'est quelque chose d'essentiel dans la mythologie alien, jusqu'au bon fonctionnement de ce que personne ne remet en cause au tout début du film, à savoir l'androïde qui est justement, qui est censé être, on va dire, l'élément stabilisateur du vaisseau, garder toujours, entre guillemets, son sang-froid. Et bien même lui va être contaminé par cette folie, par cette confusion, encore une fois, des genres et des rapports de force. Et oui, effectivement, Alien nous montre que tout d'un coup l'espace est une source qui peut se dérégler de manière absolue.
Oui, moi je dirais qu'il y a déjà un peu de la culture cyberpunk qui va suivre dans les années 80 dans Alien, c'est-à-dire que on voit l'émergence avec déjà la société, avec l'enjeu de la société privée qui est un enjeu économique, qui est un enjeu de valeur, ce qui pose d'ailleurs une question essentielle dès le premier Alien, c'est quelle est la valeur humaine face à un enjeu économique. Et la question, il y a une réponse très claire qui est ça ne vaut l'humain dans sa chair, dans sa vie même ne vaut rien face à un enjeu économique très important. C'est très actuel.
C'est une variable d'ajustement.
C'est une variable d'ajustement et c'est une variable d'ajustement qui va merveilleusement dans la mise en scène de Scott nous faire réévaluer le vaisseau qui dans ses premiers plans, alors les tout premiers plans du film Alien une fois qu'on l'a déjà vu peuvent paraître inquiétants dans leur espèce de quiétude clinique, mais en réalité ce sont des plans qui sont plutôt rassurants. Ce vaisseau est carré, ce vaisseau fonctionne, cet équipage dort et pourtant ce vaisseau continue sa routine. Et bien ce qui va se passer c'est qu'à partir du moment où la corporation est au courant que dans son vaisseau se trouve cette forme de vie biomécanique surpuissante, et bien tout simplement il est hors de question de la détruire, il est hors de question de s'arrêter en chemin, il est hors de question de l'affronter, peu importe que l'équipage trépasse, le vaisseau doit absolument revenir sur Terre pour ramener cette denrée qui a une valeur inestimable. Et tout d'un coup, le vaisseau, même le vaisseau, devient une espèce de nouvelle jungle et un lieu qui ne fonctionne plus normalement. Son super ordinateur central, Mother, devient l'adversaire objectif de nos héros et tout ce microcosme qui devrait être rassurant et parfaitement maîtrisé par les humains se retourne contre eux.
Je vous poursuis un peu avant de parler de la créature, de la dimension sexuelle, fantasmatique, perverse de la créature et de l'univers créé par Giger. Mais ce qui est intéressant, c'est que face à cet équipage, donc qui est un équipage d'ouvriers de l'espace, face à cette corporation surpuissante qui utilise les vies humaines pour des objectifs économiques, on est vraiment là dans une proposition dystopique très noire, très froide, qui, on a dit évidemment que Alien mélangeait la science-fiction et l'horreur, mais amène par ailleurs une lecture extrêmement noire et véritablement une forme de dystopie que le cinéma n'avait fait qu'anticiper, que la littérature elle-même était progressivement en train de mettre en place. Je vous rappelle qu'on est en 1979, Norbert Marjanian.
Oui, alors il y a quand même, je dirais qu'il y a dans la SF, il y a quand même toujours eu une vision assez sombre et assez critique, notamment de des équilibres économiques. Mais là c'est frontal, c'est-à-dire ce qu'Alien amène, c'est vraiment d'un côté un affrontement biologique, c'est celui des corps, des chairs, des griffes, etc. Et puis l'affrontement sous-jacent entre des intérêts de méga corporations hyper puissants et le simple souhait de vivre de gens du commun. Il y a ces deux tensions et elles sont il y a une alchimie qui se passe dans le film qui fait que ces deux tensions, ces deux tenseurs quasiment deviennent font toute l'intrigue.
Alors pour parler un peu encore une fois du travail de Giger, Dan O'Bannon le rencontre sur le tournage ou en tout cas sur le projet de tournage de Dune. C'est Dan O'Bannon qui va aller donc le contacter, le chercher, le ramener dans le projet. Il dit, et je trouve ça assez intéressant, il dit: il y a une chose qui perturbe tout le monde, c'est le sexe. Je me suis dit, c'est comme ça que je vais attaquer le public. Je vais l'attaquer sexuellement et je ne vais pas cibler les femmes dans l'audience. Je vais attaquer les hommes. Je vais mettre toutes les images susceptibles de leur faire croiser les jambes de crainte. Viol oral homosexuel, reproduction, la chose pondant ses œufs dans votre gorge, la totale. Ça veut dire que malgré son héroïne féminine, Alien est un film qui doit faire peur, qui doit perturber les fantasmatiques sexuelles masculines.
Alors, n'oublions pas que jusqu'à présent, et d'ailleurs même jusque dans les toutes premières versions avant que Giger n'intervienne du film, le monstre, la créature, et a fortiori la créature extraterrestre, est une créature mâle. C'est un monstre que d'autres hommes doivent vaincre. Là, tout d'un coup, on change complètement de logique, on renverse tout. C'est-à-dire que, oui, comme le disait O'Bannon, il est effectivement déjà question de viol, ce qui est inattendu, en tout cas à l'époque, dans toute cette symbolique de la série B d'horreur. Mais en plus de ça, là où le travail de Giger est d'une richesse géniale, c'est que ça subvertit même cette idée d'O'Bannon. C'est-à-dire que ça fonctionne sur plusieurs facettes. Certes, il y a effectivement une violence physique, masculine, phallique, sexuelle, tout ce qu'on veut, mais ça fonctionne aussi, on va dire, sur son pendant féminin. Il y a une peur de l'enfantement, de l'acte d'enfanter dans Alien, et du fait que votre engeance revienne pour vous dévorer, et de retour pour vous, qui est également prégnante. Et en réalité, cette créature, il faut savoir qu'encore avant d'avoir Giger, Ridley Scott voulait à un moment essayer d'envisager une créature plutôt féminine, et ça ne lui plaisait pas, le résultat était trop androgynique. Et finalement, l'alien est la parfaite synthèse de ça, parce que justement son allure extrêmement placide lui confère quelque chose qui est très loin, on va dire, de la fureur masculine qu'on peut imaginer chez un super prédateur, chez le lion ou le tigre. Non, là on est sur chez une créature, le xénomorphe se déplace de manière très lente, très gracile. Donc, il est exactement à mi-chemin entre cette menace mâle et cette menace femelle. Et par définition, il amène tout le monde à se repositionner par rapport à ça et, en réalité, à paniquer.
Ce qui va être développé dans la mythologie, notamment dans le deuxième, il faut préciser que une révolution qu'amène Alien, c'est son héroïne. Une héroïne féminine forte qui va structurer, vous le disiez, hein, c'est votre personnage, c'est ce qui vous attache, Norbert Marjanian, ce personnage d'Hélène Ripley interprété par Sigourney Weaver, qui là pour le coup aussi est finalement un basculement qu'on pourrait presque qualifier de politique.
Oui, c'est un des premiers grands personnages féminins du cinéma, d'un cinéma, on va dire, un peu mythologique.
Surtout dans un contexte de SF qui est en général un univers assez masculiniste, assez masculino-centré, disons.
Oui, ça change un peu, mais c'est vrai qu'il l'était en tout cas clairement à l'époque. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que on a clairement, moi je pense qu'il y a un message sous-jacent qui est Ripley, donc qui est cette femme qui va finir par vaincre Alien et surtout par survivre. C'est la seule avec le chat, c'est la seule survivante, et donc si, la métaphore, ça pourrait être que il faut une héroïne féminine, il faut une féminité, il faut une intelligence peut-être féminine, il faut un rapport aussi à tout ce qu'Alien génère comme peur, particulièrement féminin, pour survivre à Alien. Et effectivement, les peurs ou les angoisses plus masculines, qui sont un rapport de force, qui sont une domination, sont nécessairement incapables de vaincre le super prédateur qui par définition et à une puissance bien plus grande. Et pour revenir à cet aspect féminité, enfin bon, c'est un peu des lieux communs, mais effectivement on a tout, on a les ventres, quasiment de la césarienne gore avec l'enfantement, on a le viol de la symbolique du viol de Ripley par l'androïde, du coup, qui est pas par la créature mais par l'androïde, donc c'est traité de façon différente.
Il faut préciser, c'est dans le premier Alien
où l'androïde roule roule un magazine.
Un magazine,
etc.,
et essaye de l'étouffer par la bouche.
Et l'essaye de, voilà, lui enfonce dans la bouche.
Avant, lorsqu'il est vaincu, de se mettre à cracher, à expectorer, voilà, un espèce de liquide blanchâtre, épais, dont la symbolique est assez évidente.
Ouais, la symbolique est claire. L'appendice buccal, évidemment, de l'alien qui sort, là, une bouche suffit pas, il faut un gros appendice bien phallique pour évoquer ça. Donc, et puis les scènes où le personnage, où Ripley est en sous-vêtements, mais tranquille, c'est pas des scènes, c'est des scènes très intimistes, où elle n'est pas érotisée, elle est dans une espèce de quotidien sur ce vaisseau, mais du coup, elle a sa féminité est patente, quoi, elle est évidente.
Il faut préciser que ça va vraiment sur les quatre premiers, toute cette thématique-là autour de la maternité, de cette héroïne féminine forte, ça va vraiment composer, structurer un par un chacun des épisodes. La lutte contre la reine mère dans le deuxième épisode. Dans le troisième épisode, Ripley se retrouve dans une planète exclusivement composée d'hommes pervers, hein, d'hommes avec un double gène Y qui sont tous des criminels, des violeurs, donc eux-mêmes des prédateurs, jusque dans le quatrième où ça va interroger, où elle va devenir elle-même en quelque sorte la mère de l'alien.
C'était déjà le cas d'ailleurs dans la conclusion du troisième épisode. Oui, effectivement, peut-être une des grandes idées de James Cameron sur Aliens, Alien 2,
deuxième.
Qui est tout à fait le deuxième épisode de la saga, et en fait d'avoir organisé une rencontre au sommet, un duel entre Ripley, mère putative de Newt. Rappelons que dans la version cinématographique et non pas dans la version Director's Cut, le fait que Ripley soit mère n'est pas mentionné, et donc elle est une mère adoptive, mais elle devient mère au cours du film, et elle va affronter symboliquement une autre mère, une autre forme de mère, beaucoup plus totalisante, beaucoup plus absolue, à savoir la reine alien. Et c'est donc un combat et deux configurations de féminité très différentes qui vont s'entrechoquer. Et dans le troisième épisode, David Fincher va à nouveau rajouter, si j'ose dire, un étage à la fusée, en faisant cette fois de Ripley une mère biologique, vu qu'elle porte en elle une reine mère et qu'elle peut être à l'origine effectivement, voilà, de cette espèce de fusion monstrueuse entre ces deux entités. Et après, Jean-Pierre Jeunet se débrouillera pour aller encore ailleurs sur un autre terrain en partant du clonage.
Non, oui, alors pour continuer sur Jean-Pierre Jeunet, il va jusqu'à l'hybridation et qui est la conclusion de cet affrontement qui pour moi fait un premier cycle dans la saga, c'est-à-dire un affrontement qui au début est fait de surprises et d'effroi et qui finit par une mixité, une hybridation et une relation filiale entre les deux héroïnes.
La méthode scientifique. Nicolas Martin.
Il est 16h36, vous écoutez La méthode scientifique sur les quelques notes de Jerry Goldsmith qui signe le thème du premier Alien, notes qui vont être reprises et notamment dans les récents films et dans Alien Covenant, puisque Ridley Scott récupère ce thème qui avait été petit à petit un peu abandonné dans les épisodes précédents. On a parlé de tous ces éléments qui, on l'entend, constituent déjà une mythologie forte et quasiment un univers monde qu'on va essayer de développer. Il y a d'autres thèmes de la SF qu'on a pu penser pendant un certain temps être une sorte de filigrane, d'intrigue secondaire, mais que l'on retrouve, qui s'étire et qui prennent aujourd'hui, avec Prometheus et Alien Covenant, une importance et une signification particulière. Ce sont tous les thèmes qui sont liés, thèmes majeurs de la science-fiction s'il en est, liés à la vie synthétique, aux androïdes, à la vie artificielle. Souvenez-vous de cet extrait qui est issu du premier Alien, justement, après le combat entre Ripley et Ash, qui est le premier androïde.
Pourquoi la compagnie nous a envoyé une saloperie de robot ?
Il voulait qu'on ramène l'étranger pour les services de la défense. Ash était chargé de le protéger. Ash ! Quel était l'ordre spécial qu'on t'a donné ?
Ramener sur Terre forme vivante. Priorité numéro 1. Toute autre priorité annulée.
Comment peut-on le tuer, Ash ? Il doit y avoir un moyen de le tuer, lequel ? Comment peut-on faire ?
Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire. Un parfait organisme. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité.
Tu l'admires, n'est-ce pas ?
J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais vous avez ma sympathie.
Voilà la voix évidemment traduite de Ian Holm, qui est Ash, donc l'androïde malveillant du premier Alien. À Ash succéderont Bishop dans le deuxième et le troisième épisode, interprété par Lance Henriksen, puis Cole, qui sera interprété par Winona Ryder, puis David, aujourd'hui interprété par Michael Fassbender. On notera pour la petite anecdote que c'est ABCD, qu'il y avait un ordre alphabétique qui est rompu dans Alien Covenant, puisque le nouvel androïde s'appelle Welter. On fait un grand saut dans l'alphabet. C'est intéressant, cette problématique et cette lecture de l'androïde, de la vie synthétique. Donc, encore une fois, thème majeur. On rappelle que le premier Alien sort en 79, que Asimov est en train d'écrire les suites de Fondation à cette époque-là. Et c'est finalement, effectivement, un fil beaucoup plus structurant qu'il n'y paraît.
Il n'était pas interdit, en regardant les deux premiers Aliens, de penser que la présence des androïdes était une, on va dire, une cheville scénaristique assez classique de la SF et qui permettait de jouer sur l'effet de surprise. Dans le premier, on ne s'attend pas nécessairement à ce que Ash, symboliquement et physiquement, violente Ripley. Tout comme dans le 2, on pouvait jusqu'au dernier moment se dire que Bishop allait finir par se retourner contre elle, ce qui n'arrivait jamais. Mais en réalité, au fur et à mesure des films, et plus récemment avec Prometheus et Covenant, c'est aussi une deuxième grille de lecture qui est au moins aussi passionnante que celle de l'alien à proprement parler, à savoir le rapport de l'homme et de sa création, l'homme synthétique, et quelle est l'empathie, quelle est la sympathie, la compassion que peut éprouver cet homme synthétique pour l'alien, entité biomécanique s'il en est, qui pour lui est à la fois objet de désir, objet à créer, objet qui doit advenir, et en même temps objet d'adoration.
Norbert Marjagnan, sur cette place et cette importance de l'androïde, d'une réflexion autour de la vie synthétique par rapport à la vie humaine et par rapport à cette entité parfaite, comme vient de la décrire justement Ash dans le premier opus.
Oui, pour moi, c'est la deuxième face du rapport à l'altérité. Alien, c'est le rapport à l'altérité monstrueuse d'un prédateur plus puissant. L'androïde, c'est l'altérité d'une autre forme d'intelligence, et donc ça questionne le rapport émotionnel, mais aussi la forme d'intelligence, la durée de vie, puisque les synthétiques ont une durée de vie supérieure. Et au-delà de la création ou de la filiation, ça, il y a vraiment ce rapport à l'altérité, et au fond, la question se pose toujours dans la confiance. Est-ce que Ripley, est-ce que Cole, etc., sont des êtres de confiance, peuvent faire confiance aux androïdes. Pour Cole, on le découvre
donc
assez
Cole
tard.
Qui est Winona Ryder, l'androïde du quatrième épisode.
Voilà,
signé Jean-Pierre Jeunet.
On découvre assez tard sa nature d'androïde, et on s'aperçoit que c'est un androïde qui veut en fait sauver la Terre. Donc son empathie est totale, ce qui est très différent évidemment dans les derniers opus. Pour moi, là, c'est on est dans quelque chose d'assez classique dans la science-fiction, et je suis moins fasciné pour ce qui me concerne dans le traitement qui a été fait de l'androïde. Je le trouve assez simpliste, assez binaire.
Alors, il faut parler un peu des derniers films, puisque la place de l'androïde devient plus importante avec Prometheus et Alien Covenant, puisque Ellen Ripley, qui est l'héroïne, donc mère impossible des quatre premiers épisodes, se substitue une autre figure, celle de David, interprétée par Michael Fassbender, qui est l'androïde avec des intentions clairement pas très très amicales dans Prometheus, qui va prendre une place également importante dans Alien Covenant. Donc on substitue une héroïne positive, humaine, qui essaye de se sauver, de sauver ses proches, à, et c'est chose relativement rare dans le cinéma et dans la science-fiction, un héros négatif qui déteste les humains et qui va chercher à causer leur perte en créant lui-même, en singeant l'humanité.
C'est un héros négatif, David. C'est un héros qui considère que ses créateurs sont pas si doués que ça et ne méritent en aucun cas son obéissance, sa dévotion, sa révérence, et qui pourrait se percevoir, qu'on va dire, comme un kaléidoscope, une fusion aussi bien entre Faust, entre Prospero et
Frankenstein, le premier moderne. Enfin, c'est Frankenstein. Très dissimulé.
Clairement. Et donc voilà, il entreprend de créer quelque chose, et cela va passer par un renversement symbolique de ce qui avait été jusqu'à présent, ce qui avait présidé esthétiquement à Alien. C'est-à-dire que cette créature dont la naissance était absolument monstrueuse et par essence féminine, vous évoquiez une césarienne gore ou qui tournerait mal, et bien à partir de Prometheus, le point de départ va être un liquide visqueux, noir, une liqueur séminale. Donc on est maintenant sur une pure symbolique paternelle, masculine, et donc tout tout ça va petit à petit à nouveau dérégler encore une fois la série, qui, rappelons-le, a toujours fonctionné par juxtaposition et par, on va dire, amendement de sa mythologie. Donc elle se brouille à nouveau et elle nous met, nous, spectateurs, dans une situation très particulière. C'est que pour la première fois, Scott fait un truc, moi, qui me semble très culotté. C'est-à-dire, il nous propose, voire il nous exige, d'une, de nous mettre en empathie avec un personnage intégralement négatif. Et en plus, en creux, il nous dit que ce personnage, c'est un peu lui. C'est ce personnage tout puissant qui décide de balancer par la fenêtre ce que nous avions pris pour une mythologie, s'il le veut, qui explique qu'il peut réécrire les choses et qu'il peut s'affranchir de tout. Le fait de l'assumer et de faire, voilà, comme ça, ce portrait en creux, je trouve que c'est assez original, c'est assez fort, et surtout, ça lui permet vraiment de travailler la matière première de la saga, vraiment en attaquant la racine.
Et il y a un autre lien qui devient intéressant, puisque après Alien, le huitième passager en 1979, il ne faut pas oublier que le film suivant de Ridley Scott s'appelle Blade Runner, que c'est un film qui parle précisément des êtres humains de synthèse, des androïdes, et les ponts, les passerelles entre ces deux univers sont pour le moment ténues, mais Alien Covenant débute, le plan de départ est clairement le même plan que le plan de départ de Blade Runner. Il y a donc, d'un seul coup, les univers commencent à se rejoindre, à se toucher, et on arrive à un univers-monde qui devient encore plus étendu que celui qui était seulement proposé par Alien.
Ce qui est très excitant, qu'on apprécie ou non ce que Ridley Scott a fait ces dernières années dans l'univers d'Alien, c'est qu'on sent de manière très très forte qu'il est en lutte avec les premières œuvres qui ont fait sa renommée. C'est quelque chose qui l'interroge, qui l'agace, qui le travaille, et il veut et en reprendre possession et les retravailler. Ça n'est pas pour rien qu'il préside à la fabrication de Blade Runner 2049, la suite de Blade Runner attendue pour le mois de novembre, qui sera réalisée par Denis Villeneuve, mais qu'il encadre et qu'il produit. Donc, de là à dire qu'il va faire se jumeler ces univers, c'est sans doute aller trop loin, mais néanmoins, on sent que de manière évidente, il y a des ponts symboliques qui se créent. Tout simplement parce que les androïdes qui sont au cœur de Blade Runner et donc qui étaient toujours présents dans la saga Alien jusqu'à présent pouvaient être négatifs, mais négatifs parce qu'ils travaillaient pour la corporation. Mmh. David introduit une rupture là-dedans, dans le sens où David ne travaille que pour lui. David n'est pas l'incarnation de la Weyland-Yutani et il n'est pas là pour nourrir le capitalisme forcené du futur. Il ne travaille qu'à son propre intérêt. Et en cela, il se rapproche des Nexus 6 de Blade Runner, ces androïdes qui d'un coup accédaient à la conscience et se rebellaient.
Weyland-Yutani qui est par ailleurs déjà un des ponts entre les deux univers, puisque la compagnie qui produit les réplicants dans Blade Runner s'appelle Yutani et que la Weyland est donc la compagnie qui produit les androïdes dans Alien. Norbert Merjanian, vous, ça vous convainc moins ce lien?
C'est pire que ça. Je pense que quand un créateur commence à avoir comme sujet de travail lui-même, je pense qu'il est bon pour aller à la pêche. On a sur les thèmes des deux dernières aliens, la question de la création est centrale. Mm-hmm. Et la question de la capacité de création d'un androïde, notamment, est centrale. Ce qu'on voit, en tout cas moi, c'est vraiment de façon intime ce que j'ai ressenti, et aussi en tant qu'auteur, c'est que en réalité, de création, il n'y en a pas. On a un androïde qui bidouille, etc., qui part d'ailleurs d'une vision de l'œuvre de création, de l'œuvre artistique, de l'esthétique extrêmement classique qu'on passait dans cette salle blanche où on a quelques
heures. Alors on parle du plan d'ouverture d'Alien Covenant, voilà, donc pas de spoiler, ouais, pas de révélation, évidemment. Ce sont les quelques premières minutes.
On a déjà cette thématique dans le précédent, dans Prometheus. On se trouve avec une esthétique de la création qui est extrêmement froide, pour moi stérile, avec une créature synthétique qui singe la création, et pour moi Ridley Scott singe les créations de ses premières années. En fait, plutôt que de se poser la question de la création, j'espère que pour l'avenir, il va se remettre à créer.
Simon Rio, vous partagez pas ce point de vue ?
Alors, je ne le partage pas tout en trouvant qu'il est pertinent. C'est-à-dire que je constate, tout comme vous, combien l'androïde David est dans une quête qui, en réalité, est une quête de la reproduction, de la conjugaison, de la nuance et non de la création. Mais pour moi, ça a à voir avec la dimension tragique de ce personnage et avec ce qui fait aussi de lui un Victor Frankenstein. Parce que Victor Frankenstein ne crée pas la vie, il la singe. Et c'est en ça où, moi, je trouve ce parallèle extrêmement intéressant. Et là où je trouve, justement, que la dynamique de Scott Scott et ce que ça nous dit de lui aussi et de l'impasse dans laquelle il est très intéressante. Et cette impasse ne me dérange pas parce que formellement, je trouve le film extrêmement intéressant. Il se rapproche de quelque chose que n'avait jamais fait la saga avant, c'est-à-dire qu'il va dans la direction du néo-slasher, de la série B, d'un truc qui est très très agressif, très énervé, tout en restant techniquement extrêmement abouti. Et donc du coup, voilà, c'est un auteur qui est face à ses contradictions, qui nous met face à elles et qui, me semble-t-il, a encore la politesse d'envisager son film comme un élément de pur divertissement. Et ce mélange très très problématique, hein, je le trouve assez fascinant et assez stimulant.
Mais moi, précisément, cette façon d'envisager l'horreur, l'épouvante, l'effroi, part du gore, c'est-à-dire par une accumulation de scènes où on a voilà des corps qui sont mutilés de plein de façons. C'est la négation de ce qu'il avait fait dans Alien, le huitième passager, où c'est-à-dire le fait de susciter la peur et de laisser l'imaginaire du spectateur envahir, enfin s'emparer de sa propre peur et la déployer, la démultiplier. Le gore, c'est-à-dire ce traitement effectivement très série B, fait disparaître l'épouvante. Je dirais presque qu'il la ruine. Et pour moi, là où la science-fiction, comme la mythologie, comme tous les grands récits, a de plus fort, c'est quand elle évoque, quand elle suscite et quand elle nous amène, nous, à relayer ça par notre propre cerveau.
Il faut dire un mot aussi, parce qu'on a fait qu'évoquer la créature principale, c'est-à-dire l'alien. Un autre point fort de la mythologie, c'est ce cycle biologique qu'il crée depuis l'œuf, le facehugger, puis les différentes phases d'évolution de cet alien. Puisque nous sommes dans une émission qui s'appelle La méthode scientifique, on a voulu savoir un peu quelle était la réalité biologique derrière cette espèce de xénomorphes, derrière cette nouvelle espèce, aussi fascinante et aussi sexuelle. Puisqu'il faut le rappeler, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qu'à l'époque de la sortie du premier Alien, le film a été classé X tout de même en Grande-Bretagne par le British Board Film Classification pour une vision perverse de la reproduction. Alors est-ce que cette vision perverse est réaliste? Nous sommes allés poser la question à un spécialiste de la biologie évolutive, Raphaël Ponce.
Un xénomorphe, ce serait un organisme qui habite hors la Terre. Évidemment, on fait toujours référence à ce qu'on connaît. Donc, dans le film, l'alien, même s'il est un organisme un peu mélange, bizarre, insecte, reptile, il est quand même anthropomorphe, il a des pattes, il a des choses qu'on connaît.
Mais alors, justement, il a un sang qui est acide. Et ça, c'est une particularité aussi, qu'il serait réaliste d'avoir un sang qui est très acide.
Pour avoir un sang si acide comme dans le film, mais au moins ce qu'on connaît par rapport aux animaux, il y a certains animaux qui vivent dans des conditions vraiment très acides. Donc c'est possible d'imaginer qu'un organisme puisse développer un système pour avoir ce type de sang.
On pourrait aussi se demander pourquoi l'acidité de son sang ne dissout pas les tissus de son corps.
Ça dépend vraiment de la composition. C'est vrai qu'avec le niveau d'acidité qu'il montre dans le film, c'est clair qu'il détruit tout. Et comme ça, avoir un matériel qui puisse marcher bien dans ces conditions-là, c'est difficile à penser, mais il en existe. Dans la nature, c'est surtout des micro-organismes, des extrémophiles.
Il y a des scènes où on voit le monde à travers le regard de l'alien, et on pourrait se demander comment il voit. Est-ce qu'il a des capteurs sensoriels comme des yeux?
Oui, il faut toujours un système pour interagir, mais bon, avoir des yeux n'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de types de senseurs chimiques pour voir et interagir avec l'environnement, pour détecter de l'aliment, pour détecter des proies ou des prédateurs.
Après, comment on pourrait définir l'intelligence de l'alien? Est-ce que c'est une intelligence individuelle, plutôt sensorielle, voire collective comme des insectes?
Il semble qu'il apprend, il semble interagir avec l'environnement et apprendre avec ceux qui l'interagissent. Donc il semble avoir un système pour apprendre et pour répondre. Donc il y a une sorte d'intelligence plutôt développée dans le film.
Et au niveau de la reproduction, est-ce qu'il est ovovivipare, l'alien? Il pond des œufs, on voit les œufs d'alien?
Oui, on voit dans ce système de reproduction, et c'est d'abord l'œuf, et après il utilise un hôte, dans ce cas l'humain. D'abord il pond les œufs dans cet humain-là, il profite très bien de l'humain, il se développe, il tue l'humain, et ça grandit, il fait tout le cycle de reproduction, de développement, comme si c'était comme ça dans son planète. Et bon, dans le planète, il n'y avait pas d'humains. Donc, c'est un peu bizarre comme ça de qu'il utilise un autre qu'il ne connaît pas pour une partie de son développement.
Voilà, un parasitoïde vivipare, c'est a priori relativement vraisemblable. Donc nous pouvons trembler, peut-être qu'il y a des aliens qui sont aux confins des systèmes connus. Pour conclure, dans les quelques minutes qui nous restent, on a essayé de voir un peu comment cet univers monde qu'avait créé Ridley Scott et qui s'est construit au fur et à mesure des différentes contributions jusqu'à déborder sur d'autres univers comme celui de Blade Runner a effectivement été un passage, a marqué un passage vers une autre forme de science-fiction. Comment est-ce que vous concevez, comment est-ce que vous comprenez, vous, aujourd'hui, l'héritage, justement, de cet univers, de cette mythologie alien dans la science-fiction, qu'elle soit cinématographique ou littéraire, Norbert Marjanian?
Alien a inspiré non seulement le cinéma, mais par exemple énormément le jeu vidéo. Il y a énormément de jeux vidéo qui reprennent des scènes, cette espèce de... D'abord, on a aussi quelque chose de très classique, une espèce d'unité de temps, de lieu et d'action. Mm-hmm. Les scènes de vaisseaux avec ces grands couloirs et le fait d'avoir toujours ces grilles. Moi, j'ai toujours été fasciné par ces grilles dans des vaisseaux hyper modernes qui s'enlèvent au sol, machin. Et on le retrouve dans énormément de jeux vidéo qui sont des shooters. On peut citer
la très bonne adaptation qui s'appelle Alien Isolation, qui est sortie il y a un an et demi et qui se situe avant le deuxième film, où l'on interprète la fille d'Hélène Ripley qui va à la recherche de sa mère pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, où elle se retrouve aux prises avec un alien qui est plutôt un jeu vidéo assez intéressant, parce qu'il s'agit non pas de tuer l'alien mais de lui échapper, parce qu'on est évidemment, comme dans les films, complètement démunis face à la créature.
Voilà, et puis jusqu'au mot, alors là pour le coup moi je vais faire un exemple plus intime, c'est-à-dire que moi j'ai dans mes propres romans, j'évoque l'alien au féminin comme étant un espace hostile, extérieur et un espace inconnu, et je pense que ce mot alien a pris une dimension particulière qu'il n'avait pas, à la fois d'hostilité, à la fois d'étrangeté absolue, et ça a posé une espèce de pôle, une espèce de référent dont s'est inspiré toute la SF.
Il faut préciser, hein, pour nos auditeurs non anglophones, qu'alien, ça signifie juste étranger, et que c'est devenu presque un nom propre aujourd'hui. Et tant mieux, parce que la première version du scénario, au début c'était Memory, le premier film devait s'appeler Space Beast, qui est évidemment un peu moins évocateur. Simon Rio, la postérité d'Alien dans la science-fiction.
La postérité d'Alien, elle est évidente, et je vais pas faire de la paraphrase de ce qui vient d'être dit. On peut peut-être parler de la postérité du deuxième, de James Cameron, qui a eu un impact sur la pop culture démentiel. Et si on va pas prétendre que James Cameron a inventé le méca, néanmoins il l'a...
Le méca, c'est
le robot, la machine dans laquelle monte Ripley lors du climax du film pour affronter la reine alien. En termes de caractérisation des personnages, moi je pense notamment à tous ces Marines qu'on a retrouvés dupliqués, mais par centaines dans le cinéma américain après ça. Je pense effectivement, voilà, à toutes les machines et les superstructures qu'on voit dans Alien 2. C'est peut-être de manière la plus, j'ai envie de dire, évidente et directe, celui qui a le plus immédiatement infusé dans la pop culture. Et dans la culture japonaise, c'est... évident.
On a entendu que Norbert Marjanian n'était pas tout à fait convaincu par la nouvelle série. On sait que Ridley Scott va tourner, et il a déjà mis en chantier un troisième film de cette nouvelle série Prometheus Alien Covenant, qui doit s'appeler Alien Awakening, qu'il en prévoit peut-être même trois autres derrière. Est-ce qu'il n'y a pas de risque à un moment donné de finir par épuiser cette franchise, d'épuiser cette mythologie à force de vouloir la circonscrire, la décrire, Simon Rio?
Évidemment, bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en la matière et sur la saga, Ridley Scott a à peu près tout dit, tout est son contraire. Originellement, Alien Covenant ne devait pas s'intituler Alien Covenant, mais Paradise Lost, et il ne devait pas y avoir de xénomorph dedans. Finalement, probablement sur pression du studio, le xénomorph est arrivé, le titre a changé, et on s'en doute le récit. Ce qu'il faut voir, c'est que je pense Scott a toujours quand même en tête de réussir à faire ce qui est, on va dire, présent en pointillé dans Prometheus et dans Alien Covenant, à savoir cette adaptation du Paradis Perdu. Réussir à nous parler de ça et à vraiment parler de Prométhée et du mythe de Prométhée. Et je pense que tout simplement, il est en perpétuelle lutte avec lui-même, avec le studio, pour réussir à sortir un petit peu, mais pas totalement, on va dire, du cadrage du film de genre et du blockbuster. Il y arrive plus ou moins bien, il se débrouille plus ou moins bien pour être, on va dire, en pirate dans son propre film. Et bien sûr, il y a un risque d'appauvrissement, on va dire, du sujet. Je crois qu'en réalité, il a surtout envie de se réapproprier complètement cette saga, d'arrêter de la laisser à des réalisateurs tiers, si j'ose dire. Combien même serait-il prestigieux, et il a envie d'essayer de boucler la boucle.
Norbert Marjanian, un mot?
Oui, juste et précisément ça, boucler la boucle. Mmh. Et je pense que quand on est rentré dans cette figure, on tourne en rond.
Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Vous pouvez vous faire votre propre opinion en allant voir Alien Covenant qui est en ce moment dans les salles de Ridley Scott. Merci beaucoup Simon Rio, merci Norbert Merjanian. Je rappelle qu'on peut vous lire Les Tours de Samarante, Trace Altitude Zero chez Donnel. Les Tours de Samarante sont aussi en folio SF. Vous pourrez, si vous le souhaitez, également aller assister à l'expo consacrée à Giger, Seul avec la nuit, qui ouvrira le 16 juin prochain jusqu'au 27 août au lieu unique de Nantes. Et si vous voulez aller également un cran plus loin sur Alien, vous pouvez compulser cet ouvrage collectif métaphysique d'Alien sous la direction de Jean-Clé Martin, avec notamment des articles d'Elie During, Raphaël Bessis, Véronique Bergen. C'est aux éditions Léo Cher. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Étienne, Mathieu Bleu, François, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Imneguet Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique, Paul Simonacci au droit d'auteur. La semaine prochaine, nous vous avons concocté une semaine un peu spéciale pour être sûr de passer votre bac scientifique avec la mention France Culture. Lundi, on révise les maths. Mardi, la physique-chimie. Mercredi, les sciences de la vie et de la terre. Jeudi, les sciences de l'ingénieur. Alors même si vous ne passez pas le bac, vous allez pouvoir replonger dans vos années lycée et finir par damer le pion à vos petits-enfants au prochain repas de famille. Allez, tout de suite, le magazine de la rédaction. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.